Alors Gabriel Vallée, pourquoi parler de ce bateau, l'Allier, et en quoi la Nouvelle-Calédonie est-elle concernée ?
Le 3 mâts, l'Allier va quitter le port de Lorient le 15 novembre 1878 pour se rendre en Nouvelle-Calédonie. À bord, toute la place disponible est occupée. Aux 102 hommes d'équipage s'ajoutent 238 passagers, femmes, enfants et soldats à l'effectif d'une compagnie d'infanterie. C'est un solide navire de 64 mètres qui a été construit quelques années avant. La coque est en bois et en fer. Et en plus des trois mâts, il y a une machine à vapeur de 600 chevaux qui lui imprime une vitesse de 9 nœuds lorsque les voiles ne sont pas utilisées. Il y a quatre canons de 14 cm qui constituent son armement. C'est un beau navire du type de la Loire, de tous ces bateaux qui avaient comme nom les fleuves de France. Alors, à cette date, la Nouvelle-Calédonie se développait. Elle nécessitait le transport de matériel et de personnel depuis la métropole. Et d'autre part, à cette époque, il y avait eu les troubles graves qui étaient survenus au mois de juin 1878. Dans le centre de l'île, c'était Boulou-Paris, c'était La Foy, c'était Hatay, c'était la région de Bourail, et puis jusqu'à Poya également. Alors, les effectifs militaires pour faire face à ces groupes armés n'étaient pas suffisants. Dès l'annonce de la rébellion, le gouvernement français va faire activer le départ d'un transport, d'abord la Victorieuse, qui partit de Toulon le 27 octobre 1878, et qui va rallier Nouméa sans problème, lui, en 80 jours, 91 jours, parce qu'il fait 80 jours jusqu'à Sydney. L'autre transport, donc, c'est l'Allier, sous le commandement du capitaine de frégate Colombo, va à Paris de l'Orient. Et il va passer par le canal de Suez. Le canal de Suez était ouvert depuis une dizaine d'années. Il va rallier Nouméa sans délai. Comme c'était un navire à voile, mais aussi avec moteur, il fallait à chaque fois trouver du charbon. Alors, ils vont faire un séjour à Aden pour embarquer du charbon. La traversée était pénible. Les ponts et les entrepôts étaient surchargés de personnes. Les femmes et les enfants en particulier souffraient de la chaleur et des conditions de vie difficiles. Le navire jette l'ancre le 11 janvier 1879 dans l'île de Java, à Cilacap. C'est pas très loin de Batavia, qu'on appelle maintenant Jakarta. On avait donné le nom de Batavia à cette capitale parce que les Hollandais, ce sont les Bataves. Mais maintenant, c'est Jakarta. Ce dépôt de charbon est dans le sud de l'île de Java, en Indonésie, bien sûr.
Gabriel Vallée, on a laissé le bateau l'Allier qui doit rallier la Nouvelle-Calédonie avec à son bord du matériel, du personnel et aussi des troupes en escale à Java.
L'île de Java était réputée pour être l'une des plus insalubres du globe. Il suffit de rappeler les dramatiques pertes en hommes que subirent l'expédition de Cook, le premier voyage de Cook, l'Endeavour, après avoir exploré toute la côte est australienne jusqu'au Cap York. Il a filé sur l'Indonésie parce que là, il y avait des Européens. C'était le seul endroit au monde où il y avait des Européens, c'était les Hollandais. Donc, ils avaient été à Batavia, s'arrêter. Et Cook avait commencé à écrire au roi George une lettre disant « On n'a perdu personne. Jusqu'à présent, c'est merveilleux. » Eh bien, le tiers de l'équipage va mourir là, parce qu'ils vont tous attraper et les fièvres paludéennes, bien sûr, et les dysenteries, amibiennes en particulier. Ça va être terrible. Et puis aussi, il y avait à Batavia le séjour de D'Entrecasteaux. Il n'était plus là, D'Entrecasteaux, mais enfin, c'est deux navires, l'expédition D'Entrecasteaux. En 1793, après être passé quelque temps en balade, j'étais resté trois semaines pour l'enterrement de Huon de Kermadec, et ils avaient filé vers le nord en passant là aussi, parce qu'après deux ans de voyage, ils étaient bien fatigués, tous ces hommes, à bord de ces deux bateaux. C'était la recherche et l'espérance. Et ils vont faire escale à Batavia. Et là, alors là, eux, la moitié des équipages vont mourir. C'est-à-dire qu'ils étaient très fatigués, ils avaient des scorbutes, ils avaient tout un tas de maladies déjà. Et bon, la plupart vont périr. Antoine Castaud était déjà mort quelques semaines avant, puisqu'on l'avait immergé au large de l'archipel des Anacorètes, ce qu'on appelait, au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors donc, Batavia, il fallait éviter ce coin, mais là, il ne pouvait pas faire autrement. Alors, en cette saison, il régnait la mousson de nord-ouest, qui était réputée pour rendre encore plus insalubre cette zone de marée. Les conséquences de ce séjour se firent sentir quelques jours après le départ, après avoir dépassé Timor. Plusieurs passagers avaient contracté à terre les germes du paludisme, la fièvre bilieuse, la fièvre paludéenne, comme on disait, puisque c'était au voisinage des marées. On savait pas très bien ce que c'était. On disait qu'il y avait des miasmes dans ces eaux bizarres. On savait pas que c'était les moustiques, hein, l'anophèle qui donnait ça. L'anophèle qui pique la nuit. Alors que nos moustiques, à nous, qui donnent la dengue, piquent le jour. Alors, le temps se maintenait lourd, pluvieux, orageux, chargé d'électricité et qui favorisait l'extension de l'épidémie. Et les malades se faisaient nombreux et les crises d'hémorragie allaient provoquer des morts. Et chaque jour, l'équipage procédait à la funèbre cérémonie d'immersion des cadavres en présence du commandant et des officiers. Il fallait toucher terre au plus vite pour y soigner les nombreux malades, mais s'éloigner surtout de ces terres insalubres. Et les malades sont assez dans l'entrepont. C'est plus de 21 morts que l'on comptera avant de franchir le détroit de Torres. Parce qu'on va passer au nord de l'Australie, entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, par le détroit de Torres, qui était maintenant bien connu.
Feuilleton l'histoire sur Radio Rythme Bleu.
Gabriel Vallée, l'Allier fait escale à Java. C'est là que le personnel de bord et les passagers ont contracté de terribles maladies. Quand le navire reprend la mer et se retrouve dans le détroit de Torres, il faut se rendre à l'évidence.
De là, il n'était plus question de rejoindre la Nouvelle-Calédonie, qui était encore éloignée. Alors, le cap va être mis au sud, vers Cooktown. Premier port australien de quelque importance. Il fallait passer au-dessus du Cap York, puis descendre le long de la côte est australienne, arriver à Cooktown. À bord se trouvait le capitaine des troupes de marine, qui s'appelait Boise. Il était accompagné de son épouse. Celle-ci était malade depuis plusieurs jours, et malgré les soins prodigués par le docteur du bord et l'absorption de sulfate de quinine, Madame Boise va décéder, alors que le navire débouchait du détroit de Torres. Le commandant fit mettre le cap sur Somerset, petite localité située près du Cap York, qui avait été fondée par des pionniers du Nord Queensland. Somerset était fréquenté par des navires qui empruntaient le détroit. Un dépôt de charbon y avait été placé d'ailleurs, et un cimetière attestait que des navigateurs avaient terminé là leur course aventureuse. C'est donc au sommet de cette colline, entre des tombes anonymes, que repose l'épouse du capitaine Boise, partie confiante vers la lointaine Calédonie. Alors là, la situation à bord n'était pas du tout brillante. 157 malades alités, parmi lesquels plusieurs hommes d'équipage. L'effectif n'est plus suffisant pour assurer le quart à la machine et la manœuvre des voiles. Et la quinine aussi, bien que les autres médicaments étaient épuisés. Les fièvres bilieuses avaient tourné à l'accès pernicieux et avaient ensuite pris le caractère typhoïde à cause du grand encombrement. Ainsi le souligne le commandant Colombo qui rajoute « Il importait au plus haut point d'atteindre le plus promptement possible une ville qui pût nous offrir des secours et des ressources. Chaque jour apportait son contingent de victimes. Le 5 février, il y avait eu 2 décès. Le 6 février, 5 décès. Le 7 février, 4 décès. Le 8 février, 1 décès. Le 9 février, 1 décès. Et le 9 février 1879, l'ancre va tomber en rade de Cooktown, à l'embouchure de la rivière, là où en 1770, le capitaine Cook venait volontairement échouer son navire, l'Endeavour, qui avait subi de graves avaries sur un récif près de là. Cook devait donner son nom à ce lieu. Et après la découverte de l'or en 1873, une ville peuplée d'aventuriers et d'émigrants chinois, s'était établie. En 1875, en plein fief de l'or, la population s'est levée à 30 000 personnes. Depuis 1875, la fièvre de l'or était retombée. On est en 1879. Et Cookstown n'est plus qu'une petite ville endormie au bord de la rivière qui plus tard prendra le nom du navire de Cook, l'Endeavour. Endeavour, ça veut dire la tentative en anglais.
Gabriel Vallée, ce voyage de l'Allier est décidément très compliqué et dramatique. C'est un navire et un équipage épuisé et malade qui fait ensuite escale à Cookstown, en Australie.
En 1879, une administration avait été mise en place par les autorités de la province de Queensland. Et dès son arrivée, le commandant Colombo va faire porter une lettre au premier magistrat de la ville pour lui faire part de la situation sanitaire désastreuse du bord et formuler une demande de mise à terre dans les meilleurs délais pour soigner ces malades qui étaient alors au nombre de 127. La lettre s'est terminée ainsi: je compte, monsieur le premier magistrat, sur votre humanité pour sauver de la mort l'équipage et les passagers de l'Allier et pour éviter une catastrophe qui serait inscrite en lettres noires dans les annales maritimes de toutes les nations. De la quiline, des vivres frais et de l'eau douce étaient mentionnés dans les besoins urgents. Une première réponse vint en la personne de M. Corteum, médecin du service de santé de la ville. Il avait accosté le long du bord, il avait apporté du sulfate de quinine et il transmettait la consigne d'interdire toute communication avec la terre. Ça, c'était quelque chose de nouveau. Enfin, il indiquait qu'il était prévu que le navire se déplace à l'île Fitzroy, de l'autre côté de la baie, pour y séjourner en quarantaine. Avec vivacité, le commandant répliqua: « Si vous ne voulez pas nous recevoir comme convalescents, vous nous recevrez comme naufragés. » Et il indiquait que le navire n'irait pas à l'île Fitzroy. Une heure après, M. Howard Saint-Georges montait à bord et se fit plus conciliant que le médecin. Il promit tout d'abord de demander au gouvernement de Queensland l'autorisation d'effectuer la quarantaine au lazaret de Cookstown, ce qui avait été fait pour d'autres navires. Enfin, un surveillant est mis à bord pour observer les règles de quarantaine, un fournisseur est désigné, un camp volant à terre sera érigé avec des tentes du gouvernement et une équipe d'ouvriers. Et le 13 février, l'Allier se plaçait près du camp de la quarantaine sur la rive nord de l'Endeavour River et des travaux y avaient été entrepris les deux jours précédents. Le pavillon jaune de quarantaine flottait au-dessus du camp. Un cotre servait aux liaisons entre l'Allier, la terre et le camp. Mais, mis à part le personnel médical, nul ne devait approcher le camp à moins de 100 pas. Et le docteur Boudet était responsable du camp. Selon le jugement des intéressés, la quarantaine fut sévère. 9 soldats et 4 marins décédèrent et furent ensevelis dans le camp en des endroits indéterminés. Ceci portait à 80 le nombre total des morts depuis le départ de l'Orient. Et c'est avec surprise que le commandant Colombo reçut enfin à Cookstown les factures des fournisseurs, des gardiens, des ouvriers, la location d'embarcations, des charrettes, etc., qui s'élevaient à la somme extravagante de 100 000 francs. 100 000 francs à l'époque, c'était énorme. L'attitude de Howard Saint-Georges avait laissé présager que tous ces frais inhérents à la quarantaine imposée au navire seraient pris en compte par le gouvernement. Dans tous les cas, le montant était délirant. Et sur insistance du commandant, auprès du premier magistrat, le chiffre fut réduit de moitié et, après discussion avec les fournisseurs, abaissé à 36 000 francs. Comme le fait remarquer le commandant, le gouvernement de Queensland aurait été bien avisé de tout prendre à sa charge, en compensation des coûteuses dépenses supportées par la France lors de la réception des Australiens à l'exposition internationale de Paris quelques mois auparavant, c'est-à-dire en 1878.
Feuilleton l'histoire sur Radio Rythme Bleu.
Gabriel Vallée, l'allié, passe un long temps en quarantaine à Coucktonne. Comment s'est terminé son voyage ?
Vers le 10 avril, l'allié reçoit la libre pratique et ne tarda pas à parier après ce séjour qui avait paru long à chacun. Mais avant de rallier Nouméa, il fallait refaire le plein de charbon dans un port au sud de Coucktonne. Pendant ce temps, le retard de l'allié avait perturbé les services financiers de la Nouvelle-Calédonie. En effet, les pièces de 5 francs, largement utilisées dans le paiement des soldes des militaires stationnés dans la colonie, faisaient défaut. Or, l'allié en ramenait pour une valeur de 3 millions. Imaginez, 3 millions de pièces de 5 francs. Vous savez que la pièce de 5 francs, à cette époque, c'était quelque chose d'important. Ici, on la trouvera constamment. On trouvera une pièce, puis ensuite, on trouvera un billet de 5 francs, qu'on appelait le thaler. Ici, c'est le dollar, c'est le coût du dollar. Dans l'incertitude du retour du navire à Nouméa, le gouverneur détacha l'aviso Botan-Beaupré à Coucktonne pour récupérer les pièces. Mais c'est en mer que la rencontre s'effectua alors que l'allié allait charbonner. Les caisses de pièces furent transbordées, les nouvelles échangées et quelques jours après, la triste odyssée de l'allié était connue à Nouméa. L'allié s'amarrait dans le port le 24 avril 1879, mettant fin à un voyage qui avait été particulièrement meurtrier. Au cours de l'année 1907, un cyclone ravageait la côte ouest du Cap York, soulevant des vagues énormes. Et en rade de Coucktonne, les fonds furent bouleversés et tous les navires détruits. Après la tourmente, on va relever le long de la côte des débris d'ossements humains qui avaient été contenus dans des sacs en toile. Ce n'était pas douteux qu'ils provenaient des corps des 4 hommes qui avaient été à bord de l'Allié en 1879 à son arrivée en rade de Coucktonne. Et comme à ce moment-là, il y avait l'interdiction de communiquer avec la Terre, leur inhumation ne fut pas possible. Comme leurs compagnons de malheur décédés pendant le voyage, ils avaient été immergés. Et ces reliques furent rassemblées et ensevelies dans le cimetière de Coucktonne. Prévenus de ces faits, les autorités consulaires françaises firent élever une stèle sur les lieux de la sépulture et une plaque rappelle le drame dont l'allié avait été le théâtre. Si un jour vous passez à Coucktonne, vous pouvez rendre visite à ce cimetière et trouver cette plaque, cette stèle.